Chapitre 8 Dédicace du Temple. Le temple ayant été édifié et tous ses ustensiles mis en place, il faut que celui pour lequel Salomon a établi toutes ces choses vienne lui-même habiter sa maison et que son trône y soit transporté. Le temple était bâti sur la montagne de Morija, à la place où David avait érigé son autel dans l'aire d'Ornan, Jébusien. Jusqu'ici, l'arche avait habité sous des tapis en Sion, la ville de David. Salomon, avec tous les hommes d'Israël, tous les anciens, tous les chefs de tribus et les sacrificateurs, s'emploie à la faire monter de là dans le temple. Ce n'est plus l'élite d'Israël comme au temps de David, de Samuel 6, verset 1. Le peuple entier assiste à cette fête complète et définitive. Définitive, en effet, puisque la dédicace du temple a lieu dans les grands jours de la fête des tabernacles qui clôt toute la série des fêtes juives, Lévitique 23. C'était en effet la fête par excellence, la fête au mois d'Étanim, qui est le septième mois. Cette fête comprenait proprement 7 jours, suivi d'un 8e qui était le grand jour de la fête, voir Jean 7, verset 37. Elle avait lieu après la moisson et la vendange, figure du jugement. Elle était le symbole anticipé de ce merveilleux règne de Christ où le peuple habitera en joie et en sécurité sous ses tentes, en souvenir des épreuves à jamais passées du désert. C'est la joie millénaire après les 40 années de châtiment que la rébellion du peuple avait attirée sur lui. Le 8e jour, le grand jour, le nouveau jour, le jour de la résurrection et de la nouvelle création, est ajouté à la fête parce que ceux qui seront ressuscités auront une part spéciale à cette joie. C'est le jour céleste s'ajoutant au jour terrestre. Quand David ramena l'arche en la cité de David, c'était bien plutôt une fête des trompettes, de Samuel 6, verset 15, préparation du jour solennel de Salomon. Ici, le jour même s'est levé dans sa gloire. Les sacrificateurs en ont fini avec l'état, misérable en somme, de Gabaon. Tous les ustensiles du lieu saint, l'autel et jusqu'à la tente, versets 4 et 64, sont maintenant réunis au lieu où l'arche se trouve. C'est la fin du tabernacle. Il n'en est dès lors plus parlé. En cette grande fête, le souvenir du Dieu dont la tente s'était associée au pèlerinage d'Israël demeure seul. Dieu a enfin trouvé un lieu de repos définitif au milieu de son peuple. Note 1. Remarquons seulement qu'en tout ceci, nous sortons proprement de l'enseignement du premier livre des rois pour entrer dans celui du second livre des chroniques. De fait, notre chapitre omet les paroles « Lève-toi pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. » Il omet le cantique millénaire « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. » Voir 2 Chroniques 6, versets 41, 7, versets 3 et 6. Il ne fait mention du 8e jour que pour nous dire qu'en ce jour, Salomon renvoya le peuple. Premier livre des rois, chapitre 8, verset 66. Tandis que le second livre des chroniques insiste sur la fête solennelle du 8e jour après la première semaine de dédicace de l'autel et la 2e semaine de la fête. 2 Chroniques 7, versets 8 à 10. Tout cela nous montre clairement que Dieu a un but différent dans ces deux récits. La fête du premier livre des rois est nécessairement incomplète puisque le roi responsable occupe le premier plan. Celle du second livre des chroniques est complète puisque ce livre nous présente le roi selon les conseils de Dieu, type, par conséquent, bien plus complet de Christ. Le repos au premier livre des rois est plutôt la fin d'une période de l'histoire du roi responsable. Dieu montre que la période de la grâce ayant été complète sous David, il peut se reposer définitivement sous Salomon à une seule condition, c'est que le roi soit fidèle. En ce jour sont offerts des sacrifices innombrables, holocaustes, offrandes de gâteaux et sacrifices de prospérité. Verset 64. La joie de la communion domine sur tout. Salomon offre, rien que pour le sacrifice de prospérité, 22 000 bœufs et 120 000 moutons, et l'autel des reins étant trop petit pour toutes ses offrandes, il sanctifie pour les sacrifices le milieu du parvis. L'arche de l'Alliance est introduite en son lieu, avec les chérubins tirés du propitiatoire qui sont les témoins de cette alliance, avec les chérubins debout, rejoignant leurs ailes, qui en sont les gardiens. Du côté de l'Éternel, rien ne manquait. Tout était assuré. Dieu veillait fidèlement à l'exécution de sa volonté, mais à quoi cela servait-il sous l'ancienne alliance si le peuple, pris à partie, y était infidèle? Il n'en sera plus ainsi quand l'Éternel fera avec Israël une nouvelle alliance, toute de grâce, inconditionnelle, et où la responsabilité du peuple n'entrera nullement en ligne de compte. Les chérubins couvraient non seulement l'arche, mais ses barres. Du côté de Dieu, le repos que donnait l'alliance était tout aussi assuré que l'alliance elle-même. Les barres de l'arche, témoins des pérégrinations de cette dernière à travers le désert, sont désormais inutiles et ne serviront plus. Elles restent comme témoins du passé dans le lieu même du repos. En un roi, nous avons déjà dit pourquoi on ne trouve pas de voile comme en deux chroniques, mais dans les deux cas, les bouts des barres se voyaient depuis le lieu saint sur le devant de l'oracle, mais ils ne se voyaient pas du dehors, verset 8. C'était manifestement le repos de Dieu, et il avait d'autant plus de prix qu'il était accompagné du souvenir permanent de ce qui l'avait précédé. Seulement, pour être assuré de ce repos et en jouir, il fallait entrer dans le lieu saint. Ceux de dehors ne pouvaient s'en rendre compte. Le repos définitif avec Dieu est le partage de ceux qui demeurent avec lui, des sacrificateurs qui habitent dans sa maison. D'autres choses encore caractérisaient la traversée du désert en rapport avec l'arche. Des bénédictions y étaient précieusement conservées. La cruche d'or qui contenait la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri ne se trouvaient plus dans l'arche au moment où Salomon l'introduisit dans le temple de Dieu. Verset 9. Voir Hébreux 9, verset 4. Dans le désert, Dieu se faisait connaître comme un Dieu de miséricorde, malgré la sévérité de la loi, cachant sous le propitiatoire la loi qui condamne, établissant la grâce à l'ombre des chérubins, attribut du jugement divin. Gardant sous ses yeux, avec cette loi terrible, la gloire d'un Christ descendu ici-bas comme le vrai pain du ciel, pour nourrir son peuple, mais ressuscité et revêtant son humanité, la manne, d'un corps glorieux, la cruche d'or, maintenant caché dans le lieu le plus secret du tabernacle, gardant aussi la verge de la sacrificature, seul capable, à l'encontre de Corée, de conduire le peuple sain et sauf à travers le désert. Ces deux objets, la manne et la verge d'Aaron, ne seront plus nécessaires sous le régime millénaire, comme nous le voyons ici en figure. L'alliance sera gardée, Dieu étant la seule partie contractante. La sacrificature n'aura plus Aaron, mais Melchisédek pour type, et ses fonctions seront de bénir. La gloire de Christ, homme, au lieu d'être cachée dans le sanctuaire, sera manifestée aux yeux de tous en la personne du vrai Salomon. Et il arriva que, comme les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, et les sacrificateurs ne pouvaient pas s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Versets 10 et 11. Frappante image de ce qui ne pouvait être obtenu même sous le régime le plus glorieux de la loi. La présence de Dieu excluait celle des sacrificateurs. Dans le sanctuaire céleste, les sacrificateurs pourront se tenir en présence de la gloire, y habiter et y avoir part, mais même ce que nous avons déjà maintenant en esprit ne pourra être égalé dans le temple millénaire. C'est ce que Salomon commence par établir au verset 12. L'Éternel a dit qu'il habiterait dans l'obscurité profonde. L'accès n'était pas ouvert. le régime du temple de Jérusalem restait le même que celui du tabernacle. Le voile, s'il n'est pas mentionné ici, n'en subsiste pas moins. 2 Chroniques 3, verset 14. Cependant, Salomon savait que ce n'était pas le dernier mot des conseils de Dieu, et il lui avait bâti une maison, un lieu fixe, afin qu'il y demeurât à toujours. Verset 13. Après avoir tourné sa face vers Dieu, le roi la tourne vers la congrégation d'Israël. Il remplit le rôle de Melchisédek, tandis que la sacrificature aaronique ne peut se tenir dans le sanctuaire. Il bénit toute la congrégation d'Israël. Ensuite, verset 15, il bénit l'Éternel. Il rappelle que les grâces assurées de David sont le point de départ de la gloire de son royaume, alors même que cette gloire va dépendre de l'alliance légale. Dieu avait accompli envers le roi de gloire tout ce qu'il avait promis au roi rejeté et souffrant. On trouve ici en Salomon, comme en Christ, l'accomplissement de toutes les promesses, parce que David, le roi rejeté, objet de la faveur spéciale de Dieu, avait marché ici-bas, n'ayant qu'un but et qu'une pensée, trouver un lieu de repos pour le trône glorieux de l'Éternel. Christ, à travers toute son affliction, n'avait à cœur que de glorifier Dieu là où le péché l'avait déshonoré. À cause de cela, le Père l'aimait et l'a prouvé en l'élevant dans la gloire. Cette magnifique maison avait été bâtie pour y loger l'Arche de l'Alliance. Verset 21. La responsabilité du peuple allait être mise à l'épreuve sous un nouveau régime, inconnu jusqu'alors, celui de la gloire, mais où les tables de la loi restaient la règle de cette responsabilité. Il en sera de même dans le millénium, seulement Satan sera lié pendant la durée de ce règne. Les hommes ne seront plus séduits par ses ruses, et le règne de justice les forcera à se plier à ses exigences. Versets 22 à 30. Salomon remplit réellement ici le rôle de sacrificateur. Il se tient devant l'autel, en face de toute la congrégation d'Israël. Là, il étend les mains vers les cieux et prend le caractère d'intercesseur. Il est bien, comme nous l'avons dit, le type de Melchisédek, roi de justice et roi de paix. Comme Melchisédek, il reconnaît et proclame en l'Éternel, Dieu d'Israël, le Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. Il reconnaît que Dieu garde son alliance. Israël ne l'avait pas gardée. Et sa bonté, verset 23. Sans cette dernière, garder son alliance était la condamnation définitive du peuple. Toutefois, cette bonté même était selon l'alliance de la loi. Dieu la gardait envers ceux qui marchaient devant lui de tout leur cœur. Et maintenant, il supplie Dieu de tenir à David ce qu'il lui a promis. Verset 25. Toute la fidélité de Dieu envers les siens dépend de ce qu'il a promis à Christ. On entrerait ici sur le terrain de la grâce pure, s'il n'y avait pas un « si ». Tu ne manqueras pas devant ma face d'un homme assis sur le trône d'Israël, si seulement tes fils prennent garde à leur voie, pour marcher devant moi, comme tu as marché devant moi. Comme ceux, si seulement, nous condamnent tous. Il a condamné absolument le sage Salomon, à bien plus forte raison, nous, chétifs. Sous le régime de la responsabilité pour acquérir quoi que ce soit de l'Éternel, nous sommes condamnés d'avance. Il va sans dire que la grâce aussi entraîne une responsabilité pour ceux qui appartiennent à son régime. Mais cette responsabilité est tout autre. Elle peut se traduire par ces mots « soyons ce que nous sommes », tandis que la responsabilité légale dit « devenons ce que nous devons être ». Mais, ajoute Salomon au verset 27, « Dieu habitera-t-il vraiment sur la terre ?» Même dans le millénium, cela ne sera pas. Dieu, comme tel, habitera au-dessus de la terre dans son assemblée, la Nouvelle Jérusalem. Pour qu'il habite sur la terre avec les hommes, il faut attendre les cieux et la terre éternelle, d'Apocalypse 21, verset 3. Salomon, sachant ces choses, demande à Dieu que son nom soit là, ce nom qui représente pour la foi sa personne elle-même. Il demande que, du lieu de son habitation dans les cieux, Dieu écoute le roi, son serviteur, et son peuple Israël, quand ils se tourneront vers sa maison. Il exprime en même temps le sentiment que l'un et l'autre ont besoin de pardon. Écoute et pardonne. Salomon entre ensuite dans l'énumération des cas divers où ses prières et cette intercession s'adresseraient à l'Éternel. Premier cas, versets 31 et 32. Le premier cas est individuel. C'est la demande à Dieu de condamner le méchant quand le serment lui est imposé devant l'autel, dans cette maison, et de justifier le juste. La présence de Dieu dans sa maison rend l'iniquité impossible. Nous avons ici la vérité simple et générale de la rétribution individuelle, comme elle est connue sous la loi, quand Dieu a consenti à venir habiter au milieu d'un peuple dans la chair. Deuxième cas, versets 33 et 34. Il admet le cas où le peuple, ayant péché contre l'Éternel, celui-ci suscite contre lui des ennemis pour le battre. Si le peuple se repent et recherche l'Éternel dans sa maison, Dieu lui pardonne et le fait retourner dans son pays. Troisième cas, versets 35 à 40. Il suppose que des plaies, sécheresse, famine, sauterelles, assaut de l'ennemi, etc., s'abattent sur le pays à cause de l'infidélité de ses habitants. S'il y a repentance dans leur cœur, qu'il suffise de la supplication d'un seul, quand ils étendront leurs mains vers la maison, que Dieu écoute alors des cieux et pardonne, mais en donnant à chacun selon ses voies, afin que lui soit craint. C'est toujours la loi, avec le mélange de miséricorde qu'elle peut comporter, si Dieu trouve de la réalité dans le cœur. Quatrième cas, versets 41 à 43. Il y a aussi des ressources pour l'étranger. Il vient de loin, entendant parler du grand nom et de la puissance de l'Éternel, et lui adresse sa requête, tournée vers la maison. Dieu l'écoute dans les cieux et l'exauce, car le roi veut que tous les peuples de la terre, aussi bien qu'Israël, son peuple, connaissent le nom de l'Éternel et le craignent. Ici, point de jugement, point de bénédiction conditionnelle. L'étranger, en dehors du cercle de la loi, s'approche de Dieu par la foi et reçoit une pleine bénédiction. C'est en quelques mots un beau tableau de la bénédiction millénaire des nations, dont les privilèges découlent du fait que Dieu a sa maison à Jérusalem, au milieu de son peuple. Cinquième cas, versets 44 et 45. Ici, nous trouvons non pas les manquements du peuple, mais Israël agissant selon la volonté de Dieu et guidé par cette volonté pour faire la guerre à ses ennemis. Ce fait est remarquable. Quand les nations reconnaîtront le Dieu d'Israël, ce peuple lui-même sera un peuple de franche volonté pour combattre les ennemis de l'Éternel. La maison sera désormais le centre de bénédiction et de force du peuple. Sixième cas, versets 46 à 53. Ces versets mentionnent la fin de leur histoire comme peuple responsable. Ils sont emmenés en captivité à cause de leurs péchés. Salomon est ici prophète. Il anticipe ce qui arrivera nécessairement à ce peuple sous la loi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche. Cependant, une ressource subsiste encore. La maison est là, et Dieu ne peut renier ses promesses. Ce n'est pas à la loi que Salomon en réfère, mais à la grâce. Par pure grâce, le Dieu des promesses avait sauvé son peuple d'Égypte. Pourrait-il renier cette grâce, même sous le régime de la loi? Ils sont son peuple. Dieu les abandonnera-t-il? Non. S'ils se tournent repentants vers le pays, la ville et la maison, Dieu les écoutera. Daniel en est l'exemple. Daniel 6, verset 10. Il restait debout au milieu du désastre, seul juste qui pria pour le peuple et s'humilia pour lui. Et Dieu ne l'a-t-il pas écouté? Mais un plus grand que Daniel, Salomon, le roi de gloire lui-même, était là. Il dit à Dieu, « Tes yeux étant ouverts à la supplication de ton serviteur, et à la supplication de ton peuple Israël. Et ce Salomon lui-même n'est que la faible image du vrai roi, du vrai serviteur de l'Éternel. L'intercession de Christ fait que Dieu reçoit de nouveau ce peuple. Il le restaure pour sa gloire à lui qui a fait les promesses et pour la gloire de son bien-aimé. Ainsi, la restauration future du peuple dépend du fait que le serviteur juste de l'Éternel est devant lui et du fait que Dieu ne peut renier son caractère de grâce, manifesté bien avant la loi. Un autre trait caractéristique. Salomon remonte dans sa supplication au-delà de David, jusqu'à Moïse. Plus le peuple de Dieu s'est éloigné de lui, plus la foi retourne à ce qui fut établi au commencement. Les voies de Dieu envers son peuple peuvent se modifier suivant la fidélité ou l'infidélité de ce dernier, en sorte qu'une manière d'agir de Dieu peut convenir à une période de son histoire et ne pas convenir à une autre. Mais les conseils de Dieu ne changent jamais. Ses desseins restent d'éternité. C'est ce qui fait dire à l'apôtre, à la fin de sa carrière, quand déjà la ruine de l'Église était manifeste, « Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. » Tite 1, versets 1 et 2. C'est aussi ce qui a fait dire à Salomon « Tu les as mis à part en les séparant de tous les peuples de la terre pour être ton héritage, selon ce que tu as dit par ton serviteur Moïse quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, ô Seigneur éternel. » Verset 53. Il en est toujours ainsi. La foi, dans les temps les plus sombres, trouve son refuge assuré dans ce qui était dès le commencement. 1 Jean 1 verset 1, 2 versets 7, 13, 14 et 24, 2 Jean 5 verset 6. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Versets 54 à 66. Salomon était à genoux devant l'Éternel pour intercéder en faveur du peuple. Il se relève maintenant pour bénir toute la congrégation d'Israël. Il loue Dieu avant tout de ce qu'il a donné du repos à son peuple, repos qui dépend de celui dans lequel l'Éternel vient d'entrer, lui est l'arche de sa force. Le roi reconnaît l'accomplissement absolu de toute la parole de Dieu. Pas un mot de toute sa bonne parole qu'il prononça par Moïse, son serviteur, n'est tombé à terre. Verset 56. Il présente ses propres paroles d'intercession comme un motif pour que Dieu bénisse son peuple, et le résultat de cette bénédiction doit être que tous les peuples de la terre sachent que l'Éternel, lui, est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Verset 60. La chose sera réalisée dans le règne millénaire de Christ, vers lequel toute cette histoire, comme nous l'avons souvent remarqué, nous reporte constamment. Seulement, pour que cette bénédiction ait lieu, il faut que le cœur d'Israël soit parfait avec l'Éternel, notre Dieu, pour marcher dans ses statuts et pour garder ses commandements. Toujours la condition légale, à laquelle il était impossible au roi et au peuple faillible de satisfaire, et qui a trouvé son accomplissement en Christ seul. Verset